Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h sur Europe 1, très bon début de journée à tous.
Travaillons à cette transmission des valeurs aux enfants, de façon à ce que le lundi 2 novembre soit un jour de retour à l'école, où nous serons tous fiers de la République et forts face à ses adversaires.
Comment accueillir les enfants dans les classes après les vacances de la Toussaint et après l'horreur d'un attentat commis contre un professeur d'histoire? Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est au travail. Il assistera au conseil de défense cet après-midi à l'Élysée.
Preuve que cet acte ne doit pas rester sans réponse. Les Français font bloc depuis hier. Des marches spontanées ont été organisées. De grands rassemblements sont prévus à 15h dans tout le pays.
Le couvre-feu a débuté dans un tiers de la France hier soir. Retour à la maison obligatoire à 21h. Mais pour certains, pas question d'enterrer leur vie sociale, on le verra.
Et puis, il nous régale chaque année sur le Tour de France. Peut-il aujourd'hui briller sur le Tour des Flandres? Julien Alaphilippe y participe pour la toute première fois de sa carrière.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
5 ans après le « Je suis Charlie » posté sur les réseaux sociaux, imprimé sur des pancartes lors de rassemblements, c'est un nouveau message que l'on voit apparaître depuis maintenant 36 heures.
« Je suis prof, je suis enseignant », voilà ce que l'on pouvait lire au milieu des rassemblements spontanés organisés hier un peu partout en France. Toute la communauté éducative est sous le choc, émue par l'assassinat de Samuel Paty. Comment soutenir ces enseignants? Comment organiser la rentrée du 2 novembre? Le ministère de l'Éducation a 15 jours pour réagir, le temps des vacances scolaires. Virginie Riva.
Au ministère de l'Éducation nationale, il y a plusieurs chantiers à mener de front durant ces 2 semaines de vacances de la Toussaint. La priorité, c'est l'accompagnement des professeurs. Si une cellule de crise a été mise en place dans l'Académie de Versailles, beaucoup d'autres demandes un peu partout sur le territoire ont vu le jour. Il faut également préparer le jour de la rentrée, le 2 novembre. Une minute de silence a été décidée, mais le ministre Jean-Michel Blanquer l'a dit, il ne veut pas d'improvisation, il faut réfléchir à un discours à tenir.
Travaillons à cette transmission des valeurs aux enfants, c'est évidemment ce que je ferai ici avec l'ensemble des équipes de l'éducation nationale, de façon à ce que le lundi 2 novembre soit un jour de retour à l'école où nous serons tous fiers de la République et forts face à ses adversaires.
Enfin, les syndicats enseignants l'ont demandé. Ils souhaitent un cadrage national des enseignements sur la liberté d'expression. Bref, une clarification des supports à utiliser ou non dans ce cours. Et bien sûr, comment faire avec les caricatures de Charlie? Pour l'instant, tout cela relève de la responsabilité pédagogique de chaque prof. Un travail qui va être mené avec les associations de parents, les membres du Conseil des sages de la laïcité et les enseignants.
Virginie Riva, le Premier ministre, lui, veut une riposte plus ferme dès lors qu'un professeur est menacé. Il le dit ce matin dans le journal du dimanche. La France, ce week-end, est encore sous le choc marqué par l'extrême violence de cet attentat. Ce professeur décapité pour avoir enseigné la liberté d'expression à ses élèves. Un hommage national lui sera rendu mercredi, mais déjà cet après-midi, de grands rassemblements auront lieu un peu partout en France, à 15h, notamment place de la République à Paris.
Mais hier, c'est à Conflans-Sainte-Honorine que des centaines d'anonymes sont venus saluer la mémoire de cet enseignant. Nicolas Feldman y était pour Europe 1.
Je suis prof, je suis Samuel. Au milieu d'un parterre de fleurs, de bougies, quelques pancartes rédigées au feutre noir. Sur certaines, on y devine l'écriture d'un enfant. Et c'est surtout pour cette génération, son fils et sa fille de 5 et 8 ans que Gaël veut s'exprimer.
On a la chance de vivre dans un pays qui a de belles valeurs, où on a la liberté normalement de pouvoir dire ce qu'on pense. Bien sûr dans le respect, mais on a le droit de le dire et je trouve ça inadmissible que des gens remettent en question nos libertés alors que nos aïeux se sont battus et nous, c'est à nous de faire notre travail pour nos enfants.
Au milieu de toutes ces personnes qui ont bravé le froid, il y a ces habitants de Conflans-Sainte-Honorine. Natacha dépose sa bougie par terre.
On voulait participer, on montrait qu'on était de tout cœur avec l'équipe des enseignants, avec la famille, avec tous les élèves qui ont à vivre en ce moment des choses terribles. Ouais. C'est une ère de barbarie, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment horrible. Quoi. Et puis on voulait communier avec tout le monde. Quoi.
Sur le livre blanc, Natacha rédige quelques lignes, un message pour les proches de l'enseignant. Le plus important, dit-elle, c'est que sa famille sente qu'elle n'est pas seule.
Un reportage de Nicolas Feldman à Conflans-Sainte-Honorine pour Europe 1.
Et ce matin, 10 personnes sont toujours en garde à vue, des proches du tueur, mais aussi ce prédicateur radicalisé et un parent d'élève.
Le père d'une collégienne qui avait dénoncé le fameux cours d'éducation civique sur les réseaux sociaux. Internet, il en sera question, entre autres cet après-midi à l'Élysée. Emmanuel Macron réunit un conseil de défense. Louis Dragnel, certaines mesures pourraient être annoncées très rapidement.
Oui, selon nos informations, Emmanuel Macron veut marquer les esprits en annonçant des actions immédiates. En premier lieu, il s'agit d'organiser la riposte en ordonnant le plus tôt possible des arrestations ciblées. Dans les milieux salafistes et des frères musulmans, des opérations ont déjà commencé et pourraient s'intensifier. Autre action destinée à frapper les esprits, renforcer la sécurité dans les écoles. Des policiers pourraient alors être déployés aux abords des établissements scolaires et l'exécutif envisage même de recourir à l'armée dans le cadre de l'opération Sentinelle. Le gouvernement veut aussi aller sur le terrain des réseaux sociaux qui séduisent en particulier les jeunes et il souhaite mieux s'attaquer à la diffusion de contenus faisant la promotion de l'islam radical. Dernière information, Emmanuel Macron envisage d'avancer l'examen du projet de loi contre le séparatisme. Il devait initialement être présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Bref, le président le sait, il est engagé dans une course contre la montre car depuis hier, la colère se répand et il doit tout faire pour éviter qu'elle ne dégénère.
Merci Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. Dans quelques minutes, dans 10 minutes, la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire sur cette antenne, Nathalie Elimas. Le grand rendez-vous à partir de 10h avec plusieurs personnalités dont Manuel Valls ou encore Valérie Pécresse. Et puis sachez déjà que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera l'invité de Sonia Mabrouk. Ça sera demain à 8h15.
Deux informations à l'étranger. D'abord, cette trêve humanitaire, une nouvelle fois violée cette nuit dans le Haut-Karabakh. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'avoir lancé des roquettes en dépit du cessez-le-feu. Et puis aux États-Unis, des milliers de femmes ont manifesté hier pour s'opposer à la nomination d'une juge conservatrice à la Cour suprême. Une femme choisie par Donald Trump pour remplacer l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg qui est décédée mi-septembre.
8h06, vous restez avec nous dans un instant. Comment vivre avec le couvre-feu, avec ce confinement du soir? Certains ont trouvé des parades plus ou moins recommandées. À tout de suite.
Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, ce sont des scènes inédites, difficiles à imaginer il y a quelques jours. Hier soir à 21h, la nuit est tombée sur les Champs-Élysées à Paris, sur la Grand Place de Lille, sur la Place du Capitole à Toulouse. Une nuit calme et sans aucun bruit.
Symbole de ce couvre-feu qui a débuté hier soir. De 21h à 6h du matin, les déplacements sont prohibés dans un tiers de la France. Fini les soirées au resto, entre amis et pour certains visiblement, c'est compliqué. Alors on trouve des parades, Ève Roger en a recensé quelques-unes.
Il y a la solution la plus évidente, remplacer les dîners entre amis par des déjeuners ou des brunchs le week-end. Alors pour les jeunes parents comme Clémence, ce plan B présente des avantages et des inconvénients.
C'est toujours plus sympa le soir parce qu'il y a un côté un peu festif, on peut boire un peu d'alcool et c'est moins le cas en journée. Et après, on essaye de positiver et de se dire que c'est sympa aussi de se voir la journée avec les enfants. Et ben, on n'a pas besoin de prendre de nounou, ça fait des économies.
Plus élaboré et un peu plus régressif aussi, le retour des soirées pyjama pour le groupe d'amis de David. Rendez-vous à la apéro vers 20h pour un package soirée plus nuit chez lui, tout est déjà prêt.
Moi j'ai déjà fait la proposition de le faire chez moi parce que j'ai un appartement assez spacieux, j'ai déjà anticipé et je suis allé acheter un matelas deux places et un matelas une place, ce qui fait avec mon lit et mon canapé sept couchages.
Autre option, baptisée le brunch soirée. Le rendez-vous est fixé à midi cette fois sur la table thé ou café et puis vers 15h léger glissement vers l'alcool suivi d'un au revoir autour de 20h.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe. Enfin, je ne sais pas si ce sera le nôtre, mais en tout cas, certains font ça en effet. Avec ce couvre-feu, de nombreuses professions redoutent des conséquences économiques dramatiques. Il y a les restaurateurs, bien sûr, on en a beaucoup parlé, et puis le monde de la culture. Les théâtres, déjà impactés par le confinement et par les jauges réduites, eh bien, certains craignent aujourd'hui de mettre la clé sous la porte, Diane Chenouda.
Un chiffre d'affaires divisé par 7, des annulations de dates en cascade, une rechute de la fréquentation de 60% depuis que Lyon est passé en zone d'alerte maximale. Autant dire que maintenant, avec le couvre-feu, c'est un énième coup très dur pour ce producteur de spectacle, Éric Gautret, qui est aussi directeur d'une troupe de théâtre à Lyon.
Donc là, ce qu'on vient d'acter là, c'est que la saison 2020-21, elle va être très perturbée, voire complètement inexistante. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre à mal une filière à qui on va demander pendant à peu près 20 mois de travailler sans presque pas de chiffre d'affaires. Donc il est urgent de se mobiliser de manière pratique, c'est-à-dire que les aides redescendent, parce que sinon on va faire mourir des lieux, on va faire mourir des gens qui ont tout développé sur leurs fonds propres, qui n'ont jamais eu d'aide et qui aujourd'hui se retrouvent très très pénalisé, alors qu'il n'y a pas eu un théâtre en France où il y a eu un cluster. Donc c'est dur ça, c'est dur à vivre.
Ce producteur espère donc des aides rapides de l'État, car si ça continue, il ne pourra plus payer ses comédiens et risque la faillite.
Explication de Diane Chénouda, la survie des théâtres, du monde de la culture en général. On en parle longuement ce soir à partir de 18h. Wendy Bouchard sera en direct du théâtre des Ronds-Points, du Rond-Point à Paris, théâtre de Jean-Michel Ribes, en direct donc entouré de nombreux invités, dont la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
Les courbes de l'épidémie, elles, sont toujours aussi inquiétantes, avec 32 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. C'est un record. Conséquence de cette situation, l'Allemagne, à compter d'aujourd'hui, place la région Grand Est en zone à risque. Alors la frontière n'est pas fermée, mais il faut désormais un test PCR négatif pour passer le Rhin. Un coup dur pour tous les frontaliers français. Reportage de Mélina Fachin.
À quelques heures de l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions, Anne et sa mère sont venues dans ce centre commercial de Kehl pour faire le plein de produits d'hygiène.
On n'avait pas prévu de venir aujourd'hui, on est venu plus tôt que prévu. Parce que effectivement, si c'est fermé jusque décembre, voire plus, on ne sait pas ce qui nous attend. Financièrement, c'est nettement plus intéressant.
Les produits de soins pour les cheveux, brosses à dents, enfin tout ça, c'est au moins 30% moins cher si ce n'est pas plus. Hein.
Dans les supermarchés, plusieurs rayons sont quasiment vides. Les couches, les shampoings, le papier toilette, mais les denrées les plus convoité à Kehl, ce sont les cigarettes, 30 à 40% moins chères qu'en France. Alors ces deux derniers jours, Ria a vu défiler des centaines de clients dans son bureau de tabac.
On ouvre à 5h le matin et c'était déjà une catastrophe. Il y avait du monde. On était obligé d'appeler une deuxième personne pour venir, pour donner un coup de main, parce qu'on avait vraiment fait les triples de travail que normalement.
Mais les fumeurs alsaciens ont peut-être paniqué un peu trop vite. Les trois régions allemandes frontalières de la France vont en fait très probablement les autoriser à venir faire du shopping, à condition qu'ils ne restent pas plus de 24 heures sur place. Strasbourg, Mélina Fachin pour Europe 1.
Allez, on termine par un petit mot de cyclisme. Il ne sort plus qu'avec son maillot arc-en-ciel sur le dos. Julien Alaphilippe vise une nouvelle victoire aujourd'hui.
Le Français va enfiler sa tunique de champion du monde sur le Tour des Flandres, une course mythique qu'il n'a jamais courue. Axel May.
En France, il y a Paris-Roubaix. En Belgique, il y a les monts pavés du Tour des Flandres. Dans ce calendrier sportif chamboulé par le coronavirus, le Ronde, son nom flamand, arrive cette année en fin de saison. Et c'est avec son maillot de champion du monde que Julien Alaphilippe s'apprête à découvrir la course. Sans avoir la pancarte de favori, il se présente plutôt dans le rôle d'outsider de luxe. Car pour briller sur le Tour des Flandres, devenir un spécialiste, un vrai flahut, comme on dit, il faut l'expérience du parcours. Et Julien Alaphilippe le sait.
C'est toujours une course que j'ai suivie derrière la télé. Elle m'a toujours donné envie, donc je suis très content de faire partie de l'équipe cette année. Et même si je pense que ça sera un peu spécial sans le public, mais voilà, ça fait partie des conditions en ce moment.
Le public est en effet invité à rester à la maison en raison, bien entendu, de la situation sanitaire. Ce Tour des Flandres, un autre champion français va le courir pour la première fois. Romain Bardet, remis de sa commotion cérébrale survenue lors de la Grande Boucle, il va disputer à presque 30 ans la dernière course de sa carrière sous les couleurs de son équipe de toujours, AG2R la mondiale, avant de découvrir l'an prochain une formation étrangère, Sonoweb.
Axel May, deux résultats en football. Marseille a battu Bordeaux hier soir 3 buts à 1. Reims, en revanche, s'est incliné une nouvelle fois, battu par Lorient. Ce soir, il y aura 6 affiches de cette 7e journée de Ligue 1 et notamment le choc, le derby du Nord entre Lille et Lens. Match malheureusement à huis clos à Lille.
Et qu'on suivra quand même. Merci beaucoup sur Europe 1, bien sûr. Merci Marguerite. À tout à l'heure pour le dernier journal de cette matinale à 9h.